je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur.
Ja, bonjour les vikings, stanir leviroun funktu her. Quelques petites douceurs en alsacien pour vous saluer chaleureusement, chères grandes oreilles de Radio Judaïka. J'espère que vous gazouillez bien dans ce début septembre. Je sais, c'est la rentrée, mais bon, moi je déborde d'énergie, je ne tiens plus en place et je tournicote et je tourbillonne dans tous les sens et même dans les sens interdits. Oui, oui. Juillet-août m'a fait un bien fou. Sport, tennis, rando, sniffer l'air marin, admirer Dame Nature, s'asseoir au pied d'un arbre, siester et bouquiner. Et je reviens ce matin devant cette forêt de micros, dans notre studio, heureux, heureux de papoter dans le poste et très heureux de vous présenter mon invité du jour. Une charmante fée aux doigts d'or, une créatrice de haute couture, sa griffe Cléon est signe d'élégance et magnificence de Strasbourg à Paris en passant par New York, Tokyo et jusqu'à la petite pierre, là où brille l'étoile polaire. Bonjour, bonjour ma chère invitée. Vous êtes créatrice de mode et vous êtes très élégante. Le noir vous va ravir, dites-moi Cléon.
Bonjour André, un grand merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir.
Ben moi aussi, ça fait plaisir de partager ce petit moment avec moi. Tu vois là, Cléon est assis sur le rebord du monde et c'est parti, on va se raconter. Alors, je suis ravi bien sûr de t'avoir fait une place dans mon émission. Dis-moi Cléon, tu sublimes les femmes ?
Oui, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Quand je regardais une femme, j'avais toujours envie de la réparer. Enfin, réparer, c'est pas très joli dans la mode, mais si.
Physiquement, tu veux dire
comme ça, les proportions, les longueurs de jupe. J'avais tout de suite envie de les relooker.
Mais chaque femme est différente. Il y en a des petites, mais des grandes, des moyennes.
Mais c'est ça qui est très intéressant. Ça, c'est merveilleux, justement. Chaque femme est différente. Et je trouve que chaque femme, quand on la regarde dans les yeux, elle a quelque chose de lumineux, de positif. Et cette féminité-là, j'adore la travailler.
Il y a pas mal d'hommes aussi qui ont un côté féminin très important.
Aussi, mais c'est très intéressant.
C'est intéressant,
sûr.
Ça. Alors, dis-moi, pour être créatrice, il faut avoir de multiples talents, Cléon, savoir dessiner au fusain, avoir le sens du beau, observer, scruter le théâtre de la rue.
Oui, mais ça aussi, c'est passionnant. Moi, j'adore me promener dans la rue, dans le silence, observer la foule, les gens. J'adore voyager aussi. Dans les voyages, j'ai appris énormément de choses. Et c'est ça qui fait que ce côté cosmopolite, maintenant installé partout dans le monde, c'est ça la beauté du monde aussi.
Mais dis-moi, la haute couture, c'est pas réservé qu'aux hommes, comme Gardin, Dior, Saint-Laurent ou notre Mugler, l'Alsacien, c'est plutôt des hommes qui font la mode.
Mais ça, c'est une autre époque. Au 19e siècle, on disait que les meilleurs peintres, c'était des hommes. Mais tout ça, c'est terminé. Les femmes ont beaucoup de talent aussi dans la mode. Regardez Chanel,
Coco Chanel,
Madeleine Vionnet, qui a été un grand génie de la mode du XXe siècle, dont on ne parle plus en France. C'est un peu dommage. J'ai eu la chance, moi, de faire ces études de mode et d'être formée par le bras droit de Madeleine Vionnet. Et cette femme m'a tout appris. Je lui dois tout.
C'est comme ça qu'elle est arrivée. C'est de fil en aiguille. C'est comme ça arrive ta passion. Comment elle est née, cette passion ?
Je l'avais déjà depuis toute petite. Je viens d'une famille d'artistes. Mon père est sculpteur sur bois. Et pour moi, j'avais l'impression d'avoir une enfance tout à fait normale. Et c'est en grandissant et vers l'âge de 40 ans que j'ai réalisé que j'avais une enfance tout à fait particulière, une éducation particulière.
Au bord de la Loire, tu as grandi au bord de la Loire,
oui,
c'est ça ?
Oui, j'ai grandi au bord de la Loire, près de Saumur. C'est une très jolie région.
Il n'y a pas de la cavalerie là-bas, non ?
C'est
pas,
si,
y a pas,
bien si. Sûr, bien sûr. L'architecture aussi est très belle dans cette région. Mais ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est cette grand-mère que j'avais, qui faisait partie de cette génération qui avait connu les guerres. Et elle aimait faire la cuisine. Le dimanche, on sortait la belle vaisselle. Et l'intérieur, tout était mélangé. Et ce qui donnait beaucoup de charme. Il n'y avait plus de place sur les murs. Elle achetait des peintures comme ça. Et ça, j'ai été très marquée par ça. Parce que je trouve que toutes ces histoires sur les murs, c'est comme des fenêtres ouvertes sur le monde.
C'est génial, ouais.
Voilà.
Tu parles d'une enfance heureuse, paradisiaque.
Oui, j'étais, moi, pour moi, c'était une enfance heureuse. J'étais très solitaire. Et c'est cette solitude qui me rendait aussi très heureuse.
Et en fait, tu as grandi à la campagne, en fait, entre le potager, le poulailler, les lapins.
Oui, et... tout à fait. J'ai grandi dans cet univers très simple. Et donc, dans cette éducation, quand je désirais m'acheter quelque chose, je devais le faire.
Et par exemple, acheter quoi, par exemple ?
Par exemple, si je voulais une petite table de nuit, mon père me disait « tu vas à la bénisterie, tu l'as fait ».
Tu l'as fait toi-même ?
Ah oui. Je le faisais moi-même.
Et tu savais le faire ?
Mais oui, parce que c'est à la fois psychologique, tu es obligé de te creuser la tête, tu n'as jamais fait ça, tu te lances, et puis hop, 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 les choses se font.
Et ton père, il t'aidait ? Il te montrait ?
Non, il me disait, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Parce que encore aujourd'hui, j'ai une façon de travailler dans mon univers créatif qui est très particulier. C'est l'expérience qui m'a fait, comment dirais-je, réfléchir à pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. J'ai à la fois ce don du dessin. C'est vrai que pour moi, dessiner, c'est en même temps une déconnexion de mon cerveau et je laisse aller ma main.
Et tu ne la guides pas, sais-tu que...
Je me sens guidée.
Par
mais
quoi ?
Je ne veux pas savoir.
Par le talent, par...
Je ne sais pas. Je me sens guidée. Par quoi, je ne sais pas. Et je
par le
pas
dedans
vraiment...
de toi, par ce qui est au fond de toi, ton âme.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans tout domaine, dans mon métier de mode, je peux me lancer dans une technique que je n'ai jamais réalisée. Et je le réussis très bien, parce que j'adore faire ça. Souvent, quand je crée un chapeau aussi, je vais retenir que les yeux de la cliente. Je ne sais plus si elle est blonde, brune... Et quand je vais me lancer dans la création du chapeau, je déconnecte mon cerveau, je laisse faire ma main toute seule. Et à un moment donné, ma main s'arrête et je regarde et ça me plaît.
Et donc, tu as une image d'une grande planche de dessin avec du papier blanc et
oui,
tu as un fusain,
enfin, maintenant,
t'as une craie. Tu...
J'ai beaucoup de fusains, j'adore le fusain. J'adore aussi dessiner sur ma tablette.
C'est le une... fusain, c'est comme du charbon, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. La tablette, ça donne un autre style de dessin que j'aime aussi beaucoup. Mais le fusain, j'y reviens tout le temps.
Ah ouais, c'est beau, ouais. Alors, raconte-moi un petit peu, tu habillais toi-même tes poupées de ton enfance ?
Oui, j'habillais
mes... Tu leur faisais des habits ?
Oui, je leur faisais des habits. En fin de compte, j'ai toujours été rêveuse.
Et je plus me... rêveuse que travailleuse ?
Ah si, je faisais les deux.
Les deux ?
Les deux, ouais. Les deux. Dans cette éducation, il y avait beaucoup de rigueur aussi. Et j'ai passé, à l'âge de 15 ans, j'étais mise dans un pensionnat à Paris.
C'était pas trop dur ça, non ? De quitter ton monde de la campagne et les lapins ?
Ah non, mais j'adorais cette liberté, justement.
Et chez des bonnes sœurs, il y avait de la liberté ? Ah oui ?
Eh ben,
il y avait de la rigueur, non ?
Il y avait de la rigueur, mais il y avait de la liberté. Et je m'amusais à 15 ans à relooker les bonnes sœurs. Je leur disais, la coiffure, ça va pas, les longueurs des robes, ça va pas.
On voyait pas leurs cheveux ?
Non. Elles avaient des espèces de trucs, et quand
de
elles
cornette.
Sautaient la cornette,
ouais,
elles avaient des espèces de mises en plis comme des moutons. Moi, je leur disais, mais ça ne va pas, il faut faire une raie, il faut rallonger les robes.
Tu ne alors... les mettais pas en mini-jupe, quand même.
Et alors, j'étais étonnée, elles m'écoutaient.
Mmh. Ah ouais.
Et puis, elles me laissaient cette liberté, parce qu'évidemment, dans cette nouvelle vie, si jeune, sans connaître la vie, j'avais découvert la place du tertre.
À Paris, ouais.
À Paris. Et je suis allée de nombreuses fois regarder ces artistes qui ne ressemblent en rien. Enfin, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai connu la place du Tertre avec les vrais artistes. Moi, je vous parle des années 1968, 69. Et c'était très intéressant. Et à force de me voir, ces artistes m'ont fait une petite place une fois en me demandant si je savais dessiner. Et ils ont bien aimé. Et ça, c'était pour moi... quelque chose de merveilleux, parce que c'est là où on m'a dit que j'avais du talent. Personne ne m'avait dit ça.
Mais tu dessines en noir et blanc ou en couleur ?
Non,
avec
non,
des aquarelles.
Au fusain.
Au fusain, toujours, le charbon.
Ouais, c'était mon carnet à dessin et le fusain. Ouais. Et puis, je vendais mes dessins 1 franc, 2 francs, c'était drôle. Et puis, ce qui était bien, c'est ce rassemblement d'artistes... Ça permettait aussi de s'autocritiquer les uns les autres.
Puis il y avait de l'énergie, j'imagine.
Il y avait de l'énergie positive. Et ça m'a donné une certaine assurance en moi dans cet univers créatif, parce que quand on commence, on ne sait pas quoi, on part vers l'aventure et l'inconnu. Moi, j'adore l'inconnu.
Ah oui, moi aussi, ouais. Alors, il y a quand même une phrase que j'oublie pas, ce que tu m'avais dit il y a bien longtemps, que tu aimais bien voler au-dessus des pyramides ou des cathédrales et jamais en dessous à la base. Tu vas toujours vers l'excellence.
Voilà.
Et ça, je comprends.
Lorsque j'ai commencé mes études de mode, j'ai été formée par, comme je l'ai dit avant, par le bras droit de Madeleine Vionnet. Et cette femme, extrêmement rigoureuse, m'a pris un peu... Elle a attrapé mon âme. Elle a attrapé mon âme et elle m'a propulsée. Et elle me disait toujours, dans ce métier de mode, la mode, c'est une pyramide. On ne commence jamais par le bas, on commence par le haut.
Ah, c'est intéressant.
Et le haut, c'est la haute couture.
Ouais, c'est beau, c'est beau.
Ce n'est pas comme du prêt-à-porter.
Ah ouais, c'est beau.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai très vite compris.
Ben moi aussi, cette phrase, elle m'a marqué. Je pense un peu la même chose que toi aussi. Écoute, Cléone, on va écouter une petite musiquette, l'icône de la mode des années 70, une femme délicieuse, tu vas aimer. Vas-y voir, mon ami, mets-nous sa petite musiquette orientale. Jeanne Birkin, elle est partie rejoindre son Serge Gainsbourg dans les étoiles il y a quelques semaines. Elle avait un look bien particulier, hein, basket, jeans, panier en osier, hein, Cléone.
Ah, moi j'adorais, j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans la mode de Jeanne Birkin, elle vivait la mode comme elle en avait envie. Elle mélangeait tout et c'est ce qui donnait un look extraordinaire. Et c'est ça la beauté de cette femme. C'est une vraie beauté pour moi.
Tout le monde voulait lui ressembler aussi. Hein.
Mais bien sûr, parce qu'elle avait cette sensibilité du naturel qui s'est beaucoup perdue quand même dans la mode. Il y a beaucoup de femmes qui s'habillent pour paraître. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut s'habiller pour être soi-même, pour le plaisir de porter un vêtement, un look, voilà.
C'est une femme extrêmement belle, elle était, oui. Et puis tout lui allait quoi.
Oui.
Elle était fine, belle, délicieuse.
Je suis très sensible d'entendre sa voix comme ça dans mes oreilles.
Ah, moi aussi j'adore, j'ai eu la chance de la rencontrer en concert quelques fois et
magnifique.
Tout. Et puis elle parlait facilement aux gens,
oui.
Elle était adorable.
Elle était naturelle,
admirable.
Adorable.
Ah, ouais.
C'est une vraie artiste.
Et dis-moi Cléone, à cette période-là, toi tu étais habillée comment dans cette période de chemise à fleurs, pas d'éléphant. Elle était comment Cléone? Déjà
alors,
habillée en noir?
Je commençais déjà à m'habiller en noir, je portais des mini-jupes très très courtes et je portais des cuissards laquées blanches.
Waouh! Oh,
c'est incroyable!
Très sexy ça, dis donc!
c'est incroyable, le temps a passé, c'est vrai que...
Ah mais c'est la jeunesse ça!
Oui, bien sûr, on a peur de rien, on ose, et c'est ça la vie!
C'est ça, exactement, et encore aujourd'hui on
mais
ose!
Bien sûr,
tu oses toujours.
Mais bien sûr, moi j'ose toujours,
moi aussi,
absolument!
J'ose toujours, ouais. Et dis-moi, tu as fréquenté le beau monde? Beaucoup de voyages, tu as vu des défilés de mode un peu dans le monde entier. S'est passé comment cette période-là de ta vie? Tu t'es inspiré un peu de tous ces défilés?
Oui, bien sûr, bien sûr. Pas des défilés, des gens de la rue surtout, des rencontres, des différences de culture. Quand vous allez à Tokyo, ce n'est pas la même culture qu'à New York.
Ah oui. Mais ils sont très élégants aussi, les Japonaises.
Bien sûr,
Et les Japonais,
les
aujourd'hui.
Les Japonaises, oui,
ah,
tout
ouais,
à fait.
C'est beau, ils savent s'habiller.
C'est complètement différent d'une New Yorkaise. La New Yorkaise est très élégante, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer Moi, c'est la femme qui m'a le plus impressionnée, c'est la New-Yorkaise.
Ah oui.
Parce qu'elle ose, elle travaille, elle est businessman, elle ose. Elle est en basket dans la journée, elle a toujours dans le sac à main les petits talons pour sortir le soir. Et j'aime bien, j'aime beaucoup.
Est-ce qu'elles sont habillées un peu comme les Anglaises, avec beaucoup de couleurs, du jaune au orange au bleu marine?
Elles
mélangent tout?
Elles mélangent tout, mais cela dit, elles le mélangent avec un certain chic.
Avec goût.
Avec goût. Ça se rapproche un peu de la mode française, la mode italienne aussi.
Ah ouais.
Et j'aime ça.
Et alors un jour, tu as posé tes valises et ta machine à coudre à Strasbourg en 78, je crois.
Oui, que en tu 1978.
Et alors ça s'est passé comment ça, de venir de ce beau monde, venir en Alsace. Comment tu as découvert cette ville, cette Alsace?
J'ai découvert cette ville parce que la vie a fait que j'ai eu deux enfants en même temps, deux garçons, des jumeaux. Et donc ça change la vie. Et ça c'est.
Et si on est à Strasbourg?
Ils sont nés à Paris,
à Paris,
et tout de suite après leur naissance, j'ai souhaité me reposer. Je suis venue dans la région de leur papa et j'ai adoré Strasbourg. Par contre, à l'époque, je trouvais que les femmes n'avaient pas de look. Alors évidemment, je me suis dit, mais pourquoi rester à Paris où j'avais déjà ma maison de couture? Et j'ai voulu tout recommencer ici. J'étais...
Transformer les femmes, tu veux dire?
Transformer les femmes. J'étais très, très ambitieuse. Personne ne pouvait m'arrêter.
C'est bien, c'est bien d'être ambitieuse.
Et quand je suis arrivée en
Alsace,
j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré Thérèse Villers, qui était la conservatrice du musée Tom Ungerer. Et c'est grâce à elle, elle m'a invitée à l'Arsenal, où elle était responsable de cette belle adresse culturelle de l'époque.
Rue de la Beauvoir, rue de
voilà. C'était vraiment le Lib de Strasbourg.
Ah ben tout le monde allait là-bas, quoi.
Oui, toute la culture était là-bas.
Ah, ouais.
Et donc, elle m'avait demandé de venir dessiner sur les tables une fois par mois.
Sur une nappe, avec
alors,
les assiettes et les verres?
Elle mettait des nappes en papier.
Ouais, ouais.
Et je dessinais sur les nappes. Et c'est ça qui m'a lancée à Strasbourg.
Mais tu dessinais quoi? Des robes, des tenues?
Je regardais les couples qui avaient l'air un peu de s'ennuyer à table. Moi, j'arrivais, je demandais à madame de se mettre debout.
Ah ouais.
Et je la croquais sur la nappe.
Génial.
Et les gens étaient, je pense, un peu impressionnés de, comme ça,
d'accord,
en trois coups de crayon, de lui donner un look. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'avais beaucoup de commandes. J'ai jamais eu aucun retour. Je prenais le numéro de téléphone. Et je disais à madame, bah, écoutez, je vous appellerai. Si vous êtes intéressée, elle me dit, ah oui, bien sûr. Je voudrais absolument essayer vos vêtements. C'est comme ça que ça a commencé.
C'est génial, ouais, d'avoir pensé à ça.
Et
ouais.
Après, j'ai ouvert boutique rue des Halbardes et j'y suis restée plus de 30 ans. Voilà.
Waouh. Écoute, on va écouter une petite musiquette qui va te plaire. Tu vas voir, on voit voyager, c'est plein d'émotions. Mets nous voir cette belle musique, Lucas. C'est l'Afrique, c'est beau, hein?
Oui.
J'ai connu tout ça avec mes expéditions sur les Paris-Dakar. J'ai rencontré beaucoup d'Africains,
magnifique,
des frères et des sœurs. C'était magnifique,
magnifique,
quoi. Et alors, dis-moi, en parlant d'Afrique, est-ce que tu as travaillé un peu des tissus africains, des tissus très colorés? Est-ce que tu as fait des robes?
Tout au début, lorsque je me suis lancée dans la mode, j'utilisais ces tissus africains qui sont d'une qualité de coton un peu damassé, un peu brocart, comme ça, imprimé quand même. Et ce qui me plaisait, c'est la matière, quand je l'avais dans la main, comme ça, ce coton fin, satiné, un peu amidonné. Et je faisais des robes dedans. Je m'amusais et je faisais des robes pas du tout dans le style africain. Je faisais des robes très structurées, très larges, cintrées à la taille, un peu des robes hollywoodiennes.
Ah oui.
J'adore Hollywood, j'adore les années du cinéma hollywoodien.
Tu y as travaillé là-bas? T'as fait des robes pour quelques comédiennes?
Non, pas à Hollywood, mais par contre, j'avais habillé différentes personnalités du Festival de Cannes, la Montée des Marches.
Ah ouais.
J'avais fait l'organisatrice du Festival de Cannes à l'époque. Donc, c'est plein de souvenirs. J'avais même monté les marches aussi une année.
Et tu étais déjà habillée en noir?
Oui. Le noir, je l'ai adopté définitivement.
Et pour quelle raison le noir? C'est comme Barbara?
Je ne sais pas. En fin de compte, le noir, si on veut faire un noir, on prend toutes les couleurs primaires, on les mélange, on fait un noir. Et alors, j'adore faire la couleur pour mes clients, mais pour moi, personnellement, c'est une couleur qui m'attire et qui me colle à la peau.
Oui, tu as même des lunettes papillons, comme ça, en noir. Et tu as l'impression que tu vas t'envoler au-dessus des micros, là aussi, que tu vas partir.
Non, mais le noir, c'est... Je ne m'en lasse pas. Le noir est une couleur très particulière, en fin de compte. C'est pas vraiment une couleur, on va dire. J'ai vécu aussi mon premier appartement à Strasbourg. Je l'avais fait tout en noir, sol, plafond et mur.
Ah ouais.
Et je mettais la couleur dans les objets, dans les meubles. Je faisais l'inverse. Et c'est aussi une démarche très intéressante parce que ça vous oblige tous les jours à regarder l'essentiel. Le noir, c'est ça. On est toujours dans l'essentiel. Voilà.
Et ta clientèle apprécie le noir également? Ou alors ils sont plus...
Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Ma cliente aime le noir, mais ma clientèle aime aussi les couleurs.
Les couleurs, parce que tu as aussi fait des robes de princesse et des robes de mariée en meringue, comme ça, comme des grandes meringues.
Meringue, mais non,
C'est joli.
Ah non, pas meringue, je déteste.
Je te taquine un peu, mais bien sûr.
Mais j'ai aimé, c'est vrai que j'ai eu des commandes de robes de mariage exceptionnelles. Et j'aime faire le mariage, pourquoi? Parce qu'en créativité, on n'a pas de limite. On peut aller au-delà de l'au-delà de l'au-delà dans l'originalité. À partir du moment où on apporte le rêve, c'est ça la beauté de la mode pour le mariage.
Et alors, je me souviens, quand on était en tournage chez toi il y a bien longtemps avec mon émission à Göteborg, tu avais une femme qui allait se marier. Tu lui avais fait un essayage d'une robe magnifique et son mari n'avait pas le droit d'être là. Hein. Je crois qu'il était dans la voiture.
Évidemment.
Et c'est vrai que cette femme était très grande, très élégante.
Oui.
Et tu avais fait une robe avec plein de broderies comme ça. C'était magnifique. Tu fais encore aujourd'hui des robes de mariée?
Oui, j'en fais encore. J'en fais encore, oui, bien sûr.
Et alors aujourd'hui, tu es installé là-haut, dans le Grand Nord alsacien, là où brille l'étoile polaire, ce que je disais tout à l'heure, à La Petite Pierre. C'est comment La Petite Pierre chez Cléone? C'est comment sa maison?
Alors, cette maison, je l'ai transformée petit à petit moi-même. J'ai fait la restauration moi-même. Je travaille beaucoup de choses. J'adore faire du ciment. Ça paraît complètement
incroyable. Tu fais du ciment?
J'adore le ciment.
Fais voir tes doigts. Mais tu as des doigts de fée.
Oui, mais bon, je mets des gants.
Ah, d'accord.
J'adore la restauration. Et donc, j'ai eu un bonheur immense de restaurer cette maison moi-même. Ponçage, lissage, patine, les plafonds.
C'est la maison d'un ancien notaire, je crois.
C'était une ancienne maison de notaire qui était abandonnée pendant de très nombreuses années.
Ouais.
Donc, il y avait un gros travail de restauration. J'ai pris mon temps. J'ai mis entre 6 et 10 ans.
Wow.
Et aujourd'hui, j'ai
créé... Et tu as ton atelier là-bas?
Atelier. J'ai créé un univers très original qui me plaît d'abord et avant tout.
Avec des beaux meubles, avec
Je vais beaucoup chiner à Emmaüs aussi parce que, comme j'ai fait beaucoup d'histoire de l'art, je sais reconnaître une pièce... qui peut être un peu exceptionnel. Et justement, Emmaüs, je trouve qu'il faut faire travailler ces gens-là.
Bien sûr. Et c'est où Emmaüs? À Guenot, alors?
Moi, je vais à Guenot, oui.
À Guenot?
Souvent.
Ouais, oui, c'est grand là-bas, Emmaüs,
oui,
je crois.
Oui.
Il y a toujours plein de choses. Hein. On voit toujours plein de voitures allemandes qui achètent plein de choses et qui les revendent en Allemagne, je crois. Et c'est vrai que c'est toujours bon marché, hein, tout ça.
Oui, tout à fait.
Et on trouve des petits trésors encore là-bas.
J'ai trouvé des choses étonnantes. Bon, on n'en trouve pas tous les jours, attention.
Oui, pas tous les jours.
Mais on trouve, ça me permet d'acheter des fois des meubles que je patine et je raconte une deuxième histoire.
Ah, c'est beau, ouais.
Et c'est ça qui me plaît dans la décoration.
Oui, j'ai vu ça chez toi, quand on était chez toi en tournage, on avait vu que chaque pièce était différente, d'une autre couleur.
Oui.
Et tu avais même des cailloux en verre comme ça au sol.
Oui, le gravier de miroir.
Waouh,
oui,
wow, c'était terrible
oui,
chez toi.
Disons
c'est
que
toi.
J'ai pas d'interdit, j'ose
toi.
Tout.
Bah, tu as raison. Bah, écoute, on va encore reposer un tout petit peu les oreilles. Reposer les oreilles, on va écouter une petite musiquette. Tu peux nous mettre la musiquette
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Alors c'est important aussi de temps en temps d'avoir une femme un peu sexy pour deviner ce qu'il y a en dessous de ces beaux habits.
Mais toutes les femmes doivent être sexy.
Absolument, ouais.
C'est très important, à n'importe quel âge.
Il est coquin, Souchon, hein. Il est très coquin. Hein. Mais tous les hommes sont coquins, je crois.
J'adore.
Ouais, moi aussi.
Mais j'avais eu, il y a quelques années, je ne sais plus, ça date quand même, on m'avait demandé de créer le jardin de la ville de Beach.
Ah oui.
À l'époque, le maire de l'époque m'avait demandé, le thème, c'était regarder sous les jupes des femmes.
Ah, génial. Alors, wow. C'est extraordinaire.
Alors, quand même. Donc, quand même.
C'est un peu osé, quoi.
Ah bah oui. Donc, j'ai un peu dévié quand même. Et je leur ai créé un jardin sur la féminité, les grandes sculptures de femmes, habillées Cléone, très sexy, faisant de la balançoire en porte-jartelle.
Waouh, voilà, c'est beau. Ah, il faut oser.
Amusant.
Ouais, tu as aussi travaillé, je crois, pour Tommy Ungerer. Tu as fait aussi des habillages, je crois.
Oui, j'ai fait les vêtements de Tommy lorsqu'il était à Amsterdam, où il s'était enfermé pendant 2 mois. Dans une maison close, il m'avait demandé des vêtements très particuliers.
Très coquin, je crois.
Oui, très coquin. J'aime bien parce qu'il me rappelait après, il a dit « Non mais t'as bien compris, hein, je ne fais pas un kimono normal.
» Et après, t'as fait, pour parler d'autre chose, t'as fait les habits aussi de Lalique, il n'y a pas longtemps.
Oui,
là.
J'ai fait les vêtements de toute la maison, la Villa René Lalique, il y a 8 ans, qui est une très très belle maison. Je trouve qu'on a beaucoup de chance en Alsace
d'avoir ces belles
maisons comme ça, d'exception.
Ouais.
Et là, j'ai été recontactée pour relooker à nouveau. Et c'est
bien.
C'est toujours passionnant.
Je crois que tout a changé là-bas.
Il y a un nouveau
cuisinier,
une nouvelle équipe. Ouais. Et c'est toujours aussi beau.
Oui, c'est beau. Ouais, tout est,
c'est un choc.
C'est que
un choc esthétique lorsqu'on va.
C'est vrai. Alors, parlons de choc esthétique, raconte-moi un peu, elles sont comment les femmes actuellement, précieuses, coquettes, élégantes, en pantalon, en jupe, et elles se découvrent de plus en plus. Hein.
Oui, mais c'est bien aussi. Moi, je veux dire, aujourd'hui, une femme, elle s'habille comme elle en a envie, suivant sa sensibilité, elle mélange tout. C'est ça le vrai look de la mode aujourd'hui. On peut très bien porter une petite veste sophistiquée avec un pantalon décontracté en coton, en short, en basket. La mode aux baskets est extraordinaire.
Ouais, c'est chouette, effectivement. Mais après, elle se découvre un peu plus. On voit beaucoup les
bien
rondeurs.
Bien sûr,
hein.
Parce que maintenant, les femmes vivent leur corps. Et c'est ça qui est bien aussi, sans jugement.
Absolument. Et alors, dis-moi, ta clientèle chic, elle vient jusque dans ton atelier à la Petite Pierre?
Oui, depuis que j'ai fermé ma boutique à Strasbourg, là, à la suite du Covid, la clientèle, une partie de la clientèle a suivi à la Petite Pierre. Et donc, c'est encore plus créatif qu'avant. C'est comment expliquer les choses. Oui, c'est plus, beaucoup plus, disons que je suis beaucoup moins stressée. Ce qui fait que mon côté créatif est beaucoup plus important, beaucoup plus original. Voilà.
Bah écoute, on a passé un petit moment, presque la demi-heure est presque terminée. C'était très sympa
de
te rencontrer. C'était magnifique, franchement. Mets-nous le petit générique de fin, là, si tu veux bien,
merci,
mon ami.
Merci, André.
Merci, c'est moi qui te remercie.
Tu as toujours les belles questions.
T'es gentil de dire ça, merci beaucoup.
Les deux sous chic, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sous chic, ce sont des contrats résiliés.